giù. Je vous engage effectivement à venir vendredi pour la prière pour l'église persécutée, pour toutes les réunions de prière d'ailleurs. Mais ce sont des moments importants. Les frères et les sœurs qui vivent en situation de persécution savent, parce que ça leur est communiqué, que d'autres chrétiens prient ailleurs dans le monde, et ça leur fait du bien que de le savoir. Actuellement, en Corée, le grand problème, c'est la communication. Vous savez qu'un étranger qui arrive là-bas, on lui confisque son téléphone portable à l'entrée. Et donc, il ne peut pas communiquer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur du pays, même s'il avait envie de le faire. Et les chrétiens en Corée ne savent pas ce qu'il en est du christianisme hors de leur pays. Et lorsqu'ils ont des communications de ce que les chrétiens ailleurs prient pour eux, ça les encourage énormément. Parce que sinon, ils croient qu'ils sont seuls, en fait. Voilà. Donc, si nous pouvions être nombreux vendredi soir, ce serait une bénédiction pour eux et également une bénédiction pour nous. Voilà, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que nous sommes ici réunis et de ce que nous pouvons être à l'écoute de ta parole. Seigneur, celle-ci est audible à nos oreilles et nous savons, Seigneur, que si nous ne pouvons pas venir au culte, nous pouvons ouvrir la Bible, nous pouvons nous recueillir dans notre chambre et nous tourner vers toi, prier et recevoir de toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Et ce matin, nous voulons avoir les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts, et avoir un cœur honnête et sincère pour entendre ta parole et pour agir en fonction de ce que nous entendons, qui nous vient de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. La plus grande cause de discorde sur la terre, c'est celle qui est due à l'incapacité de la nature humaine, qui est de vivre en paix les uns avec les autres. On n'a qu'à regarder les journaux tous les jours et on voit que c'est une impossibilité. Que la paix est une impossibilité dans le monde. Il y a bien des endroits où c'est moins grave que d'autres, mais si ce ne sont pas des conflits armés, ce sont des conflits personnels. Et cette paix que les uns et les autres appellent de tous leurs vœux n'existe pas finalement. Lorsque les gens sont offensés, ils veulent eux-mêmes répondre à cette offense. Et donc on est entouré, nous avons autour de nous deux catégories de personnes qui sont finalement les mêmes. C'est qu'il y a ceux qui ont été offensés et il y a les offenseurs. Sauf que un jour c'est je suis offensé, et le jour d'après, je suis l'offenseur. Donc on a une multitude de personnes, des milliards d'offensés et des milliards d'offenseurs sur la terre. Hein, c'est un peu le syndrome du conducteur de voiture. Lorsqu'il est à son volant, il tempête contre les piétons, et lorsqu'il est piéton, il tempête contre les voitures. Non, ça ne nous ressemble pas, nous, n'est-ce pas? Demander pardon, ça n'est pas une vertu du monde. Les plus humanistes pourront éventuellement passer sur des offenses qu'ils vont considérer comme mineures et voilà, laisser couler les choses. Mais demander pardon, ça ne fait pas partie de la panoplie des hommes de ce siècle, sauf en principe lorsqu'il s'agit des chrétiens. Pour Jésus, son enseignement, c'était que l'homme doit pardonner aussi souvent que c'est nécessaire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Jésus n'a pas dit autre chose, c'est que lorsqu'on t'a offensé, eh bien, pardonne. Et la plus grande offense qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est justement de ne pas pardonner. Le manque de disposition de pardonner, on le trouve dans de nombreux passages dans la parole, mais en ce qui concerne les évangiles, il est parlé de Jonas, n'est-ce pas, qui ne désirait pas que Dieu pardonne à cette ville, il ne désirait pas avertir les gens de Ninive pour leur éviter la destruction, et il trouvait anormal que Dieu veuille pardonner à ces gens. Et donc, il a désobéi et il est parti pour que cela ne se passe pas. C'était aussi le problème du frère aîné dans la famille de l'enfant prodigue. Comment mon père peut-il pardonner à ces gens, à cet homme, à cet enfant ? En fait, j'ai fait une transposition parce que nous-mêmes, parfois, nous pouvons nous poser la question, comment Dieu peut-il pardonner ce genre d'exaction ? Mais le message entier du Seigneur dans les évangiles, c'est que le cœur de l'homme a besoin d'être changé pour recevoir en lui la capacité de pardonner. La capacité de donner le pardon. Non pas une fois seulement, non pas en prenant sur soi, et en se disant, je vais faire tous mes efforts pour pardonner. Une fois, mais pas deux. Non, il s'agit de pardonner 77 fois, 7 fois, comme il est dit, ce qui en soi n'est pas une somme, mais un principe. L'homme que Dieu transforme devient capable de pardonner. Il a aussi le désir de pardonner. Alors, j'aimerais commencer dans Matthieu, chapitre 18, un passage qui est bien connu. Qui nous montre le cœur de Dieu. Et ce qu'il attend de l'homme. Verset 21, et je vais lire jusqu'au verset 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter. On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. J'aimerais m'arrêter sur juste un peu le verset 32. Méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Je ne sais pas si vous vous rappelez avoir supplié Dieu pour qu'il vous pardonne. Je ne sais pas si vous avez en souvenir cette horreur de vous-même, ce sentiment qu'il n'y avait rien ni personne qui ne pouvait vous aider, si ce n'est Dieu lui-même. Cette émotion intense au fond du cœur qui vous a poussé à vous mettre à genoux, dans votre cœur au moins, et de dire à Dieu, « Seigneur, je t'en supplie, si tu n'agis pas maintenant pour moi, je vais mourir. » Et Dieu vous a dit, jamais de la vie. C'est ça? Dieu vous a entendu. Dieu vous a entendu. Il a dit, je te pardonne. Puisque tu me supplies, je te pardonne. J'aimerais vous lire un petit passage dans ce livre « Jésus et Mahomet ». Qui a été écrit par un ancien professeur de religion musulmane à l'université de Al-Azhar au Caire, donc l'université islamique la plus ancienne, qui a 1000 ans. Donc c'est un homme qui était un professeur très réputé, qui s'est converti au christianisme, qui donc a écrit ce livre sous le nom de Marc A. Gabriel. Évidemment, c'est pas son nom, son vrai nom. Et il dit ce que Allah pense des péchés et du pécheur. Tous les péchés ne sont pas égaux dans l'islam. Certains sont grands et d'autres petits. Voici quelques exemples de grands péchés. Adorer un autre Dieu qu'Allah, nier une des doctrines fondamentales de l'islam, surtout les cinq piliers, insulter Mahomet, tuer des gens en dehors du cadre établi par la loi islamique, calomnier un musulman en son absence. Le coupable doit se repentir devant Allah, mais Allah décide de lui pardonner ou de le condamner. Au jour du jugement, il saura s'il a été pardonné ou non. Alors je vous lis une sourate. « Ô vous les croyants, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? Vous croirez en Allah et en son prophète, vous combattrez dans le chemin d'Allah avec vos biens et vos personnes. Voilà un bien pour vous, si vous saviez, Allah vous pardonnera vos péchés. Il vous fera entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux, dans des demeures agréables, dans les jardins d'Éden. Voilà un bonheur sans limite, vous aimez autre chose, etc. etc. » Pour les musulmans, ce passage signifie qu'une personne qui meurt au djihad va directement au paradis et n'a pas besoin d'attendre le jugement dernier dans sa tombe. Le seul moyen d'être sûr de son pardon lorsqu'on est musulman, c'est de prendre les armes et de tuer des infidèles. Voilà la seule certitude qu'ont les musulmans en ce qui concerne le pardon s'ils se repentent. Quelle différence! Quelle différence! Vous vous rappelez la somme de péchés que vous avez accomplis. Vous êtes venu devant Dieu. Vous l'avez supplié et il vous a pardonné. En résultat de la repentance, Dieu efface le péché. Et il efface de sorte à ce que il ne souhaite pas s'en rappeler. Il est dit qu'il les jette derrière lui-même. C'est d'ailleurs la même action qui est reprochée au peuple d'Israël lorsque, concernant la loi. Dieu dit à un endroit que la loi, vous l'avez jetée derrière vous. Ça veut dire que vous avez continué votre chemin et vous l'avez déposée en arrière. Eh bien, il a pris cette même image concernant notre péché. Il a jeté le péché derrière lui. De sorte qu'en continuant son chemin, il n'a plus notre péché devant ses yeux. Dieu a oublié votre péché, il a oublié mon péché. Il m'a pardonné. Il m'a vraiment pardonné. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que seulement nous arrivons à comprendre 1% de ce que ça implique pour nos vies? Ou alors au fond de la mer. Ça, c'était l'image qui pour moi a été la plus belle. Lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, il a jeté mes péchés au fond de la mer. C'est peut-être pour ça qu'elle est très polluée maintenant. Ensuite, verset 33, « Je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » En gros, ce que dit Dieu, c'est que la somme de péché, ce que tu me devais, était tellement énorme que de toute manière, tu ne pouvais pas me payer. et j'ai effacé ta dette malgré cela. Mais celui qui te doit quelque chose, celui qui t'a offensé, a une dette qui est petite en comparaison. Et tu avais et tu as le pouvoir de lui pardonner. Tu as ce pouvoir de pardonner. Et tu ne l'as pas fait. Et ça, je le reproche. Le pardon que Dieu accorde aux hommes, il veut que les hommes se l'accordent entre eux. Comme je vous ai pardonné, pardonnez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié? Dieu a donné à ses enfants le pouvoir. Certains veulent le pouvoir de Dieu pour faire des grands miracles ou pour être prospères sur leur compte en banque. Mais quand il s'agit du pouvoir de pardonner, où sont-ils? C'est ce pouvoir-là que nous devons utiliser. Certains diront, oui, mais il refuse de se repentir. Il ne veut pas se repentir. Et c'est vrai, ça arrive. Ça arrive. Mais ce n'est pas parce que l'offenseur, celui qui a fait du mal, refuse de se repentir que nous ne devons pas désirer lui pardonner et de tout mettre en œuvre pour qu'il arrive à la repentance, pour lui-même déjà. Parce que ce qui importe, ce n'est pas que notre offense soit réparée. Ce qui importe, c'est qu'il soit sauvé, n'est-ce pas? Et lorsqu'il sera sauvé, il viendra vous voir pour vous demander pardon. Mais si vous avez été offensé, alors votre rôle, mon rôle, c'est d'aller vers lui avec le désir dans le cœur de lui pardonner, qu'il le sache. Et en le sachant, l'amener vers Dieu, à la repentance. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il faut que notre désir de le voir se repentir devant Dieu soit plus fort que de le voir se repentir devant nous. Parce que son problème, il n'est pas premièrement avec nous. Il est premièrement avec Dieu. C'est le caractère de Dieu que d'avoir le désir de pardonner, que d'être prêt à pardonner. Je vais revenir à mon livre, page 196. Bon, vous ne l'avez pas, mais c'est est vraiment un très très bon livre. Pour vous dire quel est le cœur d'Allah concernant ceux qui offensent. Sourate 16, verset 37. Allah ne dirige pas ceux qui s'égarent. Il n'y a personne pour les secourir. Allah égare volontairement certains afin de peupler l'enfer qu'il a créé. Si nous l'avions voulu, nous aurions donné à chaque homme sa direction. Ma parole, cependant, se réalise. Oui, je remplirai la géhenne de djinns, des démons, et d'hommes réunis. Sourate 32, verset 13. Allah n'aime pas les incroyants. Certains chrétiens, certains protestants même, essayent de dire « Allah et Dieu, c'est pareil. » C'est juste une autre façon d'arriver à la connaissance de Dieu. Alors c'est vraiment méconnaître la réalité des choses. Cet homme était vraiment un érudit. Et c'est un érudit. Et le travail qu'il a fait est admirable, parce que, et c'est très simple à lire en fait. Il permet de vous faire un réel aperçu et très équilibré. Il fait un travail de chercheur, il ne fait pas un travail où il prend parti, mais il expose quelles sont les ressemblances entre Jésus et Mahomet et quelles sont les réelles discordances. Et c'est très très important, c'est très intéressant à lire, et ça permet aussi de parler à des musulmans de façon intelligente en fait. C'est ce qui manque souvent lorsque nous approchons de ces personnes, c'est qu'on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, ben on ne peut pas leur parler. On va aller dans Néhémie au chapitre 9 et au verset 17. Et nous allons voir quel est le cœur de Dieu. Néhémie 9, je vais lire pas toute la prière de Néhémie, qui est donc une prière de confession de ce que Dieu a fait dans le peuple d'Israël. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre cette prière dans son entier et de la lire et de mettre votre nom à la place d'Israël. Et vous allez voir que cela s'applique à vous, autant qu'à moi, autant qu'au peuple d'Israël, autant qu'à tous les chrétiens. Verset 16. Nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte, et dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider, le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hébon, et le pays d'Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées, de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Je vais m'arrêter là. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que ça nous parle? Cette patience de Dieu, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous dites, mais c'est normal? Il n'a qu'à faire ça pour moi. C'est pas normal, frères et sœurs. C'est pas normal que ce soit Dieu qui sans arrêt serve l'homme, alors que c'est à l'homme d'être un serviteur de Dieu. Mais c'est dans son cœur. C'est le caractère de Dieu, c'est son essence. Il n'est pas différent, il ne peut pas être autrement. Il va vous aimer jusqu'à la fin, quoi que vous fassiez contre lui. Il vous aimera jusqu'à ce que vous craquiez, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus de son amour sur vous. Il n'arrêtera pas. Et vous pourrez l'accuser, lui dire, mais tu m'as mis dans des situations incroyables. Et Dieu vous dira, oui, mais à chaque fois que tu as crié vers moi, je t'ai répondu et je suis venu pour toi. Est-ce que quelqu'un ici peut dire le contraire? Verset 19, Dieu les guide. Verset 20, Dieu donne son esprit, de la manne, de l'eau, des vêtements, les pieds qui ne s'enflent pas, des soins médicaux, il n'y a pas besoin de mutuelle. Des victoires contre les ennemis, une descendance nombreuse, le pays promis, le pouvoir sur les ennemis, des biens en abondance, la prospérité en toutes choses, des libérateurs, la délivrance à de multiples occasions. La part de Dieu, la part de l'homme. Verset 16, orgueilleux, désobéissant, oublieux, insultant, révolté, dédaigneux de la loi, meurtrier des prophètes, sans arrêt rebelle. Et Dieu est méchant. Et Dieu est dur. Et Dieu est la cause de toutes les catastrophes sur la terre? Mais quels sont les insensés qui parlent comme cela? Dieu a le cœur rempli du désir de pardonner à celui qui se repent. Et il désire, il veut que son peuple ait le même genre d'attitude vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de son frère, de sa sœur dans l'Église, mais aussi vis-à-vis de ses ennemis. Parce que si nous n'aimons pas nos ennemis, si nous n'avons pas en nous le désir d'aller vers eux, pour les pardonner au nom de Jésus. Alors qui est-ce qui va le faire? Vous me direz, tout ça, c'est pas possible, c'est trop dur. Alors laissez-moi orienter vos regards vers les frères et sœurs qui sont persécutés, chez qui on vient le matin prendre les parents, le père, l'assassiner devant les enfants, devant la femme. Et celle-ci, ou les brûler dans une voiture. Alors laissez-moi orienter vos regards vers eux et ils vous enseigneront comment pardonner. Comment, dans le cœur, il y a ce désir de pardonner pour que la rédemption puisse arriver à la porte de leurs persécuteurs. Parce que s'il est important, ce n'est pas la vie du croyant. N'est-ce pas? Il est déjà mort. Un vrai croyant est déjà mort. Mais c'est la vie de celui qui a été le meurtrier. C'est son âme qui doit être sauvée. Voilà donc le cœur de Dieu. Néhémie avait compris quel était le cœur de Dieu. Il était capable, avec des mots merveilleux, de se rappeler cette longue patience. Il était capable de voir les réalités de ce que Dieu avait fait dans la vie du peuple d'Israël, alors que ce peuple a toujours été aveugle de ces choses. Frères et sœurs, est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons le cœur de Dieu, sa bonté, son pardon, sa patience, son cœur désireux de sans cesse nous pardonner? J'aimerais que nous allions dans Romains, juste pour un dernier aspect de ce pardon. Romains 12. À partir du verset 14. Je vais monter au verset 12, pardon. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien souvent, nous ne sommes pas traités selon la justice. N'est-ce pas? C'est tous les jours. Ça peut être au travail, ça peut être même des fois dans l'église. On nous voit. On nous catégorise injustement. Et puis ce qui était vrai dans le passé n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. Et des fois, on est jugé sur ce qu'on était dans le passé et pas sur ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être qu'en tant qu'enfant, nous avons été, discrédités, diminués par nos parents. Nous avons peut-être été maltraités d'une certaine manière. Nous avons passé toute notre vie à nous sentir offensés à cause de ces choses. Alors, le verset 8 nous dit quoi faire. Pardon, 18. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous avons le choix. Soit c'est de passer en revue sans arrêt tout ce que nous avons subi, tout ce que nous avons souffert, tout ce qu'on nous a fait. Et de prendre ces choses-là, de nous les acquérir comme un bien qu'on caresse, avec lequel, dans lequel on se sent à l'aise, ça fait partie de moi. C'est ma vie. Et on garde cette rancune un peu globale sur laquelle on n'arrive pas nécessairement à mettre un nom. On est un peu fâché contre tout le monde, un peu contre personne, mais on ne vit pas. On n'arrive pas à évoluer dans sa vie chrétienne. Alors, Dieu nous explique qu'il y a quelque chose que nous devons faire. C'est détourner notre regard de nous-mêmes pour le tourner vers lui et pour nous orienter vers ceux qui potentiellement sont ceux qui sont responsables de notre état et de leur faire du bien. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, avec toutes les femmes. Hein? Parce que sinon certains vont dire, ah oui, mais ça ne concerne que les hommes. Avec toutes les femmes aussi. Ne vous vengez point vous-même. Laissez agir la colère, ça c'est celle de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi, ou si celui que tu considères comme ton offenseur a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En fait, donne-lui tout ce que tu peux lui accorder. Donne-le-lui. Et c'est à cela que Dieu va voir que dans ton cœur, il n'y a qu'une seule chose, c'est le désir de pardonner. Le désir de pardonner. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le cœur de Dieu, chez qui le désir de pardonner est beaucoup plus grand que le désir de condamner? Et en fait, Dieu ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas nous condamner. Il est patient pour cela. Et c'est pour ça qu'à chacun, il veut donner aujourd'hui même la possibilité de changer, de ce que le cœur soit changé profondément. Et que là où j'ai été offensé, là où je me suis senti agressé, je puisse évacuer cela d'un revers de main, me dégager le chemin vers Dieu. Et recevoir de lui la capacité de donner la paix autour de moi. La capacité de déverser des charbons ardents sur la tête de ceux que je considère comme étant mes offenseurs. Apprenez à prendre dans vos bras ceux qui vous ont offensé. À les serrer dans vos bras. Et de leur transmettre l'amour du Seigneur. apprenez à faire cela. Voilà, si nous pouvions passer 5 minutes dans le recueillement et éventuellement répondre à cela dans son cœur ou à voix haute. Je vais prier d'abord et ensuite que ceux qui le désirent se mettent devant le Seigneur et prient également. Seigneur notre Dieu, tu es magnifique, de patience, de bonté, et ton cœur, dans ton cœur, il y a un désir de pardon en permanence. Seigneur, nous voulons recevoir ce pardon. Et nous voulons, Seigneur, nous sentir pardonnés parce que lorsque nous t'avons supplié, Seigneur, tu nous as pardonnés. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, Seigneur, et profiter de ce pardon sans nous-mêmes l'accorder autour de nous. Et Seigneur, nous ne voulons rien retenir contre qui que ce soit. Ni des histoires du passé, ni des histoires d'aujourd'hui. Seigneur, te sommes reconnaissants de tout ton amour pour nous. Et nous voulons être de ceux qui transmettent cela, afin que la rédemption arrive à la porte de ceux qui ont besoin de repentance. Qu'ils se tournent vers toi et qu'ils soient sauvés pour la vie éternelle. Voilà, Seigneur, ce que nous voulons proclamer et qui nous importe. Nous ne voulons pas nécessairement que l'offense soit réparée pour nous, mais nous voulons que ceux qui nous ont offensés soient sauvés dans le nom de Jésus. Amen.